France Culture.
Bonjour le Book Club, j'ai lu avec grand plaisir les deux ouvrages Après l'exil et Le chemin barré. J'ai eu du mal à choisir quelle partie du livre m'avait le plus emporté, tellement je pense que la lecture de votre livre est nécessaire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux livres dans votre book club aujourd'hui qui parlent d'exil, de fraternité, d'identité, de corps, de honte, de paysage et de langue surtout. Ils sont tous deux signés par l'auteur, essayiste et traducteur Georges Arthur Goldschmidt. D'abord écrit en allemand, on les lit ici en français, évoquant au sein même de la trame autobiographique le dédoublement linguistique comme une des expériences les plus puissantes vécues par ses deux frères dans les différents mouvements d'exil débutés en 1938. De l'Allemagne vers la France en passant par l'Italie. Georges Arthur Goldschmidt est notre invité. Vers 15h50, comme chaque mardi, nous retrouvons la journaliste Nicole Vulser qui éclaire pour nous un aspect économique du monde des livres. Aujourd'hui, elle se penche sur l'auto-édition, véritable opportunité pour des autoristes non repérés, mais aussi océan de faux espoirs. Et en fin d'émission, on cherche pour le grand jeu des pages musicales de la musique dans les livres. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Georges Arthur Gauche, mais vous avez mis votre casque finalement? Oui, non? Non, plutôt sans casque. Hop, on le range. Merci beaucoup d'être avec nous.
Et c'est moi qui vous remercie.
Soyez le bienvenu dans le Book Club Le chemin barré, roman du frère apparu aux éditions Verdier. L'après-exil a aussi paru aux éditions Verdier. On va parler de ce diptyque tout à l'heure. Mais ici, tout commence toujours par un portrait de lecteur. On fait le portrait de nos invités. En espérant que quelque chose se raconte dans les livres qu'ils ont trouvés ou pas trouvés sur leur chemin. Est-ce que vous vous souvenez, vous qui êtes né en 1928 aux alentours de Hambourg, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris à lire, Georges Arthur Goldschmidt?
Oui, je m'en souviens parfaitement parce que j'étais debout sur une chaise derrière mon père en train de prendre son petit déjeuner qui lisait le journal. Et j'ai dit à mon père, tiens, tu lis ce journal? Il m'a dit, comment tu sais lire? Parce qu'à l'école, on avait vainement tenté, comme j'avais peur de l'école, je n'arrivais pas à lire. Et or, je savais déjà lire. Très souvent, les enfants savent sans que les adultes sachent qu'ils savent. Mmh. Et je savais, le titre, c'est le journal des étrangers de Hambourg, From Hamburger Fremdenblatt. Tiens, et... C'est comme ça que j'ai appris à lire, alors que vainement, on essayait de m'apprendre à lire.
C'est peut-être comme ça que vous avez appris que vous sachiez lire, finalement. Que vous saviez lire, pour parler français.
Ouais. C'est très curieux. Les adultes se trompent souvent sur ce que les enfants savent ou ne savent pas. Ainsi, quand j'ai appris le français en 1939, je suis arrivé en mars 39, figurez-vous, date terrible, et car elle précédait d'autres dates encore plus terribles, un de mes camarades du pension où j'étais disait les premiers flocons. C'était en octobre. Et je dis flocons, et rétrospectivement, je suis aperçu que je savais le français depuis plusieurs mois sans comprendre que je le savais.
Là encore.
C'est-à-dire, un enfant apprend, mais ne sait pas qu'il apprend. Et on veut lui faire apprendre des choses, donc ça se superpose et ça ne marche pas. Et le souvenir est extrêmement précis. Je ne sais pas du tout comment j'ai appris le français, mais tout à coup, j'ai compris que je le savais.
Alors, on va y venir parce que ça fait partie, cet apprentissage et votre installation comme ça, brutale dans la langue française. Ça fait partie des choses que vous développez en longueur dans vos deux textes, Georges Arthur Goldschmidt. Mais restons dans les 10 premières années, 1928-1938, vous êtes en Allemagne. Est-ce que vous grandissez dans une maison où il y a des livres?
Ah oui, mon père était magistrat. Et tous les magistrats allemands avaient au moins le Goethe complet, 40 volumes, plus Schiller à peu près autant. Donc les livres ont fait partie de mon enfance, d'autant plus que ma mère, le soir, me lisait les contes de Grimm ou les évangiles. car je suis d'une vieille famille protestante, d'origine juive, mais très protestant. Donc on me lisait les évangiles le soir. Et ça a été profondément marqué ma personnalité au plus profond de moi-même.
Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de ces deux lectures par votre mère, à la fois Grimm et les évangiles?
Les contes de Grimm, il y a beaucoup dont je ne me souviens pas, mais ça m'a beaucoup marqué. Ça et les anecdotes, si je puis dire, des évangiles. Et j'ai eu la chance, ma femme est protestante, mais calviniste. C'est pas la même chose qu'il est luthérien. C'est la même chose et autrement, soit.
Donc c'était les lectures du soir avec votre mère.
Ma mère me lisait, sachant, croyant elle aussi que je ne savais pas lire. Pour moi, c'était très agréable d'entendre lire plutôt que de faire l'effort moi-même. Soit. Mais l'originalité de mon enfance, c'est que j'avais une gouvernante et nous allons faire les. J'ai souvent raconté ça, faire les commissions le long du métro, qui était aérien. Et tout à coup, je suis poussé en avant, et je me retrouve sur les épaules d'un SS. Je découvre, à stupéfaction, qu'il y a une bosse à l'intérieur de la casquette. Et je regarde vers la droite, et arrive une voiture avec un type qui se tenait au pare-brise, c'était Hitler, qui me fait un très bref salut, le joli petit Aryen, blond, le bel Allemand, sur les épaules d'un SS. Il y a une photo à Hambourg que moi je n'ai pas vue, mais qui existe.
De vous sur ses épaules?
De moi à 8 ans sur les épaules de SS. C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal vu ce que vous racontez par la suite, évidemment, oui. Et qui est absolument tragique.
Ça m'a beaucoup frappé.
Georges Arthur Goldschmidt, dans cette maison où tout le monde semble ignorer que vous savez lire, est-ce que vous avez des moments où vous prenez plaisir à lire vous-même, à lire tout seul? Avant 1938, avant le départ.
Je ne peux pas vous dire. Oui, je. Vous savez, à ce moment-là, il y avait une écriture allemande encore, le gothique, et qu'on apprenait aussi à l'école, qui était faite de. Ça m'amusait beaucoup de faire les lettres en bâton, parce que c'est une écriture très verticale, très. Les enfants allemands apprenaient à cette époque-là l'écriture Sütterlin, ça s'appelait, qui n'était pas l'alphabet normal. Pour bien différencier des autres nations européennes. Et c'était à la fois joyeux et angoissant, les deux à la fois.
Cette écriture-là?
L'école était pour moi une épreuve terrible. D'abord, je n'ai jamais compris ce qu'on voulait de moi. Et je me souviens surtout des chemins d'aller et de retour de l'école. Beaucoup plus que de l'école elle-même. Ouais. Où j'étais protégé par une institutrice qui était avec moi adorable, alors que je devais être un enfant absolument épouvantable. J'ai dû être un enfant horrible. J'en suis persuadé. J'ai enquiquiné absolument tout le monde autour de moi.
On va sauter la période sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est la période de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi ces dates tragiques de 38 et 39, où vous quittez l'Allemagne, où vous quittez votre famille pour être protégé, et vous montez dans ce train, chose que vous racontez dans vos deux livres, Georges Arthur Goldschmidt, pour vous retrouver peut-être à l'âge de la vingtaine, au début de votre âge adulte. À ce moment-là, quelle place occupe la lecture dans votre vie?
Alors, à ce moment-là... J'étais en terminale au collège de Pontoise et c'était pour moi l'ère des découvertes. J'avais comme camarade le grand critique Gérard Genette, qui était un élève brillant et moi j'étais absolument lamentable. Et il m'a dit, lis ça, ça te cultivera.
Et c'était quoi?
Grâce à lui, j'ai découvert Rimbaud, j'ai découvert Lautréamont, j'ai presque tout découvert en quelques années et surtout... Mais ça, j'avais déjà découvert Jean-Jacques Rousseau, qui était mon grand accompagnateur et mon grand formateur. Les Confessions étaient pour moi une expérience décisive, d'autant plus que j'habitais la même région.
À ce moment-là. Mais à ce moment-là, vous voulez dire à 18 ans, vous vous trouvez des affinités avec le Jean-Jacques Rousseau des Confessions?
Exactement.
Sur quel point?
Sur le plein de la solitude, des habitudes solitaires, de la découverte du châtiment corporel, ce qui était... Ce qui m'avait beaucoup étonné, c'est qu'on puisse publier ça. Comment se fait-il qu'on laisse passer des choses pareilles? C'était ma première pensée.
Mais parce qu'il y avait un tel rapport à l'intimité, au dévoilement pour vous, ce serait ça?
Oui, et puis que de tels écrits ne soient pas interdits. Le milieu où j'étais élevé il y avait une telle censure que publier Rousseau, c'était pour moi inimaginable. C'est la grande découverte que j'ai faite de la France, n'est-ce pas, d'une espèce d'ouverture d'esprit à laquelle j'étais pas du tout habitué.
Est-ce que c'était libérateur de lire de tels textes ?
C'était constitutif. Plus que libérateur, c'est ce qui m'a fait être. Ça. La lecture de Rousseau dans les paysages de Rousseau, c'est une expérience étonnante.
Oui, parce que vous êtes du côté de Pontoise, et que c'est justement ces terres.
En même temps, j'étais un enfant retardé, j'ai été caché chez des paysans qui avaient quatre vaches, et j'ai appris à traire, à garder des vaches. C'est une expérience fondatrice, elle aussi.
Hein. Mais dont vous parlez avec plutôt...
Dans une ferme, j'étais caché.
Mais avec beaucoup de tendresse, vous en parlez dans
le livre.
Vous en parlez même comme une année presque de répit, cette année.
Des gens qui ne semblaient ne rien comprendre, savaient tout. Hein. C'était des paysans extrêmement isolés et à qui je dois énormément de choses, notamment quand les Allemands venaient acheter du beurre, P.A.U., fromage, et en réalité... On me cachait dans le foin, au grenier, et moi, je ne savais pas du tout s'ils étaient pour moi ou pour les œufs. Ça.
Et vous racontez votre peur répétée de tous les mardis où ils venaient régulièrement acheter ce beurre et ce fromage.
Et
où vous étiez, c'est très beau, il me semble, comme rassuré ou apaisé dans votre peur de jeune enfant par la mastication régulière des vaches.
Absolument.
Je trouve que c'est une scène magnifique.
Je vous remercie d'avoir lu ça.
Est-ce qu'il y a d'autres lectures qui ont été aussi constitutives pour vous que les confessions de Jean-Jacques Rousseau dans votre parcours, Georges Arthur Goldschmidt? Si on fait comme ça une sorte de grand aperçu de votre vie de lecteur, est-ce qu'on retrouve quelque chose d'aussi important que Rousseau, plus tard ?
Ça, vous le savez mieux que moi. Moi, je ne peux pas dire quelle est la relation entre ce que j'écris et ce que j'ai lu.
J'entends, mais vous, en tant que lecteur, quelque chose qui vous aurait marqué aussi fort que Rousseau ?
Le début de Madame Bovary.
Que vous découvrez quand ?
En 1947-48. J'ai découvert ça. J'étais persuadé que Flaubert n'avait écrit qu'un seul livre, Salammbô. Et tout à coup, je découvre Madame Bovary, et c'était pour moi une expérience littéraire fantastique. Au moment même où, grâce à Gérard Genette, je découvre Rimbaud. Ça aussi, c'est absolument constitutif.
Et alors, qu'est-ce qui vous marque
tant ? J'ai eu la chance d'être l'élève d'un vieux collège français, le collège de Pontoise, qui était plein de feuilles d'arbres qui tombaient dans la cour, qui étaient surélevées. Et de loin, on voyait l'Oise. C'est un paysage de roman français, absolument. J'ai eu la chance d'être dans un collège tel que le décrit Vialat, Alexandre Vialat, au début de son grand livre.
Il y a ensuite quelque chose qui s'ouvre pour vous plus tard, qui est aussi une autre expérience de lecture, c'est celle de la traduction. Georges Arthur Goldschmidt, ça va être une de vos grandes activités. Il y aura aussi celle de l'enseignement et bien sûr celle de l'écriture, que ce soit des essais ou que ce soit du roman ou du récit. Cette pratique de la traduction, c'est aussi une pratique de lecture. Quels sont, dans ce champ-là, des textes qui vous auraient marqué ?
À ce propos, je voudrais rendre hommage à mon traducteur, Jean-Luc Masson,
Jean-Yves,
qui a traduit de manière absolument admirable. Puisque maintenant on est à l'ère des machines à traduire, lui a trouvé la note exacte. Il ne suffit pas de traduire, il faut être dans la création du traducteur. Et ça, les grands traducteurs comme Jean-Yves Masson, il a tout de suite découvert à quelle hauteur d'âme se situe le livre. Et sa traduction est absolument admirable. Et je lui en suis très reconnaissant. Moi, je suis tombé dans la traduction tout à fait par hasard, parce que mon premier éditeur était Julliard, qui a publié, à travers Jean-Claude Briseville, mon éditeur, mon premier récit qui s'appelait « Un corps dérisoire ». Et le directeur de Julliard, qui est célèbre, j'ai oublié son nom, me croise dans le couloir et me dit « Goldschmidt, puisque vous êtes d'origine allemande, vous voulez pas me faire une traduction ?» Ah, je pars pour l'Italie, j'ai dit, bien sûr que oui.
Qu'est-ce qu'il voulait vous faire traduire?
Le texte de Peter Handke, qui s'appelait en ce temps-là, Bienvenue au conseil d'administration, et qui a changé de titre. Alors, ma famille était dans une partie de ma famille était encore en Allemagne, curieusement. Ouais. Et dans le train, j'ai traduit. Et c'est ça qui m'a donné le goût de la traduction. J'ai eu la chance de traduire presque toute l'œuvre de Peter Handke. Ouais. Nous sommes évidemment amis. Et la traduction est, pour moi, nécessaire, a été, maintenant je suis trop vieux, nécessaire à l'écriture.
À votre propre écriture, à vous.
Absolument.
Dans quel sens vous dites ça?
La traduction fait faire l'expérience fondamentale de l'essence de la langue. C'est par la traduction que passe la création. L'auteur qui écrit traduit du muet en parole, mais il traduit à partir d'une formulation muette. Mm. Et le traducteur a la chance d'avoir un intermédiaire. Et la traduction est créatrice en dehors de la traduction. Dans la traduction, elle ne doit pas être créatrice. Le traducteur doit se conformer exactement à ce qui est écrit, ce qui est parfois difficile, puisque je me suis traduit moi-même l'un de mes deux.
Absolument,
je traduis,
on va y venir. Ouais.
Non sans mal, d'ailleurs. Il est beau, plus facile d'écrire que de traduire.
On va y venir, parce qu'en effet, vous faites cette expérience particulière, là encore, qui est de traduire l'un de vos propres textes depuis l'allemand vers le français. Mais on y vient dans un instant. Georges-Arthur Goldschmidt, aujourd'hui, dans votre vie quotidienne aujourd'hui, quelle place occupe la lecture ?
Comme j'ai des problèmes d'yeux, de moins en moins, mais une place fondamentale. Je ne peux pas me dispenser de lire ne fût-ce que quelques lignes.
Chaque jour, vous voulez dire ?
Oui, à peu près. Je prends un livre au hasard, et j'étais retombé sur l'archéologie du savoir de Foucault. Tout à coup, j'ai pris ça dans ma bibliothèque. Et j'ai besoin d'une page de lecture au moins, pour me refaire les yeux, si je puis dire. Ça. La lecture est l'acte fondateur de l'humanité. C'est absolument essentiel. Et la lecture est un... souvent, on entend des gens... L'autre jour, il y a eu une émission à la télévision de cette célèbre émission littéraire.
La grande librairie d'Augustin Trapenard.
Où quelqu'un parlait admirablement de la nécessité de la lecture quotidienne.
Ouais.
La fondation de l'esprit passe par là. C'est pas par hasard que l'homme a inventé l'écriture, c'est pas pour rien. Hein. Et l'écriture est le geste humain absolu. D'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est catastrophique que les gens apprennent de moins en moins à écrire à la main. L'ordinateur remplace la main, mais c'est tragique, parce que l'intelligence passe par la main. Il n'y a jamais eu deux écritures absolument semblables. J'ai été professeur dans un lycée parisien, avec le plus grand plaisir, et j'ai eu une fois deux jumeaux absolument inidentifiables, mais ils avaient des écritures totalement différentes.
Ah, c'est beau cette histoire.
Et ça, c'est merveilleux.
Ah, oui. Justement, peut-être on peut s'attarder sur le fait que vous avez enseigné, Georges-Arthur Goldschmidt, vous avez enseigné notamment la langue. Est-ce que c'était une expérience agréable, cette expérience de la transmission, puisque vous parlez
d'expérience constitutive ? J'ai eu des classes de sixième à la LETSUP et j'ai adoré ça. Rien que d'apprendre à un enfant à respirer. On ne respire pas de la même façon dans les deux langues. En français, la respiration est libre. En allemand, pas du tout. Vous avez une ligne de conduite très précise. Donc, le corps, la poitrine travaille d'une manière tout à fait différente. Et c'est passionnant d'apprendre à un enfant à respirer convenablement.
Mais écoutez, vous réveillez...
J'ai fait ça avec beaucoup de plaisir.
Oui, vous réveillez un souvenir très précis. Moi, je crois que je suis à la toute fin de l'école primaire et j'ai la chance d'apprendre l'allemand. Et je me souviens très bien quand nous avait appris à prononcer le H allemand en éteignant des bougies. Donc vraiment, tout était une question de souffle.
Ah oui, tout à fait, c'est
ça. On va parler de vos deux livres parus aux éditions Verdier, Georges-Arthur Goldschmidt, juste après cette chanson de Bertrand Belin, sortie en 2011 sur le disque Hyper Nuit. L'auteur-compositeur qui fait paraître d'ailleurs ces jours-ci le roman La Figure aux éditions POL. Il y chante ici une figure du frère assez mystérieuse, presque une silhouette, mais aussi le motif de la maison, celui du mutisme et du départ, presque autant de signes adressés à vos deux textes.
Si tu t'en vas, ne sois plus mon frère. Si tu t'en vas, ne sois plus mon frère. Si tu t'en vas comme ça, je vais me taire. Et vrai muet, muet le matin. T'avoir eu si près, te savoir si loin, et muet dans le soir, comme tout alentour. Ils veulent la guerre, ils veulent tes bras. Ils veulent la guerre, ils veulent ton bras. Toi, tu leur donneras, tu feras ton fier. Si tu t'en vas, ne sois plus mon frère. Reste ici et je te maudis. Voilà ce qui me tue, me tue. Me tue.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
L'exil, l'après de l'exil, et l'histoire de deux frères aujourd'hui dans votre Book Club. 1939, deux garçons sont mis dans un train pour rejoindre Chambéry, gare de la Liberté, dans la France, vécue comme la seule issue miraculeuse en ce temps-là, par une famille allemande d'origine juive convertie au protestantisme, voulant protéger ses enfants de la persécution nazie. Sur le quai de la gare, la voix et le corps qui accueillent prononcent des mots refuge, des mots soulagement, qui feront du français une langue où respirer un peu mieux. Hitler caca. Ici donc, se dit l'enfant, on ne prononce pas le H et l'on semble au courant de la barbarie en cours. De langue, il est beaucoup question dans les deux livres qui paraissent simultanément aux éditions Verdier, Georges Arthur Goldschmidt, tous deux écrits en allemand, l'un traduit par vous, l'autre par Jean-Yves Masson. La rencontre avec le français, l'expérience du dédoublement linguistique, mais aussi la langue du régime nazi, analysée par Victor Klemperer. Tant et si bien qu'en racontant le parcours de ces deux enfants, vos doux double littéraire, projeté dans l'histoire avec sa grande hache, vous produisez ici une réflexion saisissante sur la matière qui occupa toute votre vie de professeur, d'auteur et de traducteur. J'ai bien dit les mots, Georges Arthur Goldschmidt. L'après-exil apparu aux éditions Verdier, dans la traduction de Jean-Yves Masson, et Le chemin barré, roman du frère, a aussi paru aux éditions Verdier, mais cette fois dans votre traduction. Georges Arthur Goldschmidt, il y a parmi les choses importantes dont vous parlez dans ces textes-là, des dates butoirs, des avant-après, des moments de la vie, quasiment des heures, après lesquelles le monde n'est plus pareil pour les deux enfants qui sont au cœur de ces récits. La date de 1938 et tout de suite après celle de 1939 en est une. Et dans ces moments butoirs, vous racontez, Georges Arthur Goldschmidt, la manière qu'a l'enfant, par la vue, l'ouïe, l'odorat, de saisir le réel, parce qu'il sait que c'est la dernière fois. Comment êtes-vous revenu, bien des années après, c'est-à-dire presque 90 ans plus tard, à cette précision de sensation ?
Vous dites ça parfaitement. Je vous remercie de la manière dont vous avez dit les choses. J'y suis revenu. Ma femme me dit que je suis encore complètement infantile. Et c'est grâce à cette enfance non perdue que la perception est restée ce qu'elle est. Je perçois les choses comme je l'ai. Il n'y a pas eu pour moi de rupture entre enfance et âge adulte. C'est peut-être un signe de maladie mentale, mais en tout cas, il n'y a pas de rupture. Pour moi, les choses restent immédiates. Le départ de la gare de Hambourg, il y a certains petits faits comme ça qui, en effet, tranchent ma vie. Et j'ai cette chance d'avoir une perception qui n'a peut-être pas été bouleversée à un moment donné de mon existence physiologique.
Ou peut-être au contraire, Georges Arthur Goldschmidt, elle a été tellement bouleversée cette vie que l'avant-après vous permet d'être presque très très fortement du côté de l'enfance. Je pense tout à l'heure vous racontiez, je vous interrogeais sur l'apprentissage de la lecture et vous racontiez le moment où vous surplombez comme ça la tête de votre père. Et dans le texte vous racontez sa calvitie, vous êtes en mesure de parler de la peau qui affleure de son crâne, c'est extrêmement précis. Et il y a quelque chose que vous rendez dans ces deux textes-là à quoi on a rarement accès, c'est la perception des enfants, la manière qu'ont les enfants de sentir. Par exemple, vous racontez comment l'enfant, en tendant l'oreille, petit à petit, on est en 38, sent l'inquiétude des parents, qui va devenir radicale puisqu'ils vont ensuite mettre leurs enfants dans un train. Mais il sent venir ça parce qu'il y a le mot là-bas, il y a le mot France. On vous revoit presque en train d'écouter aux portes.
C'est saisissant ce que vous dites, c'est exactement ça.
C'est vous qui dites surtout.
Et c'est, en effet, il y a eu des intonations, j'ai tout de suite compris que quelque chose se passait dont je n'étais ni maître, ni conscient. Je ne le comprendrai que plus tard, en 1942, lorsque la directrice du pensionnat où j'étais me dit « Mais mon enfant, vous ne savez donc pas que vous êtes juif ?» J'étais un chrétien pieux. C'était comme une chape de plomb qui s'affaissait sur moi. C'est quelques dates butoirs, vous avez tout à fait raison, qui m'ont constitué. Et le grand événement ensuite, c'est la rencontre de ma femme, qui était une calviniste, un peu révolutionnaire. Elle est au cœur même de cette réalité que j'allais découvrir. Elle était professeure de latin grec. Et ça m'a introduit dans les profondeurs de la France où j'étais déjà sans le savoir. C'est grâce à elle que j'ai découvert ce monde absolument différent du monde germanique. J'ai écrit plusieurs petits textes là-dessus. Il n'y a pas deux mondes plus différents et plus complémentaires que le monde germanique et le monde latino-français.
Et cette façon que vous avez de dire « j'y étais déjà sans le savoir », Georges Arthur Goldschmidt, j'ai l'impression que ce « déjà sans le savoir », il passe par la langue. C'est-à-dire que c'est comme si vous découvrez votre installation, et j'oserais même un cran plus loin, votre intégration à la France, en découvrant les sensations que vous font le français. On va lire un des passages de ce texte qui s'appelle « L'après-exil ». En 1940, à 12 ans, il était en pleine possession de sa nouvelle langue maternelle et savait qu'elle lui offrait une protection. Le français, c'était une langue dont on pouvait être sûr qu'on ne ferait jamais à cause d'elle l'expérience du mal. C'était une langue d'une grande amplitude, riche de beaucoup, beaucoup d'expériences, de beaucoup de passés. Ce qui était à la fois si étrangement encombrant et si mystérieusement séduisant en elle, c'était l'orthographe. Qui ne correspondait presque jamais à ce que l'on entendait, soit qu'il y eût trop de lettres que l'on devait écrire mais que l'on n'entendait pas, soit qu'il y eût des mots que l'on écrivait différemment alors qu'ils se prononçaient de la même façon. Contrairement à l'allemand, on ne pouvait pas se laisser glisser dans la matérialité des mots si précis qu'on pouvait presque les toucher. Il fallait d'abord les rapprocher de soi. Il était rare qu'ils vous fassent signe d'eux-mêmes et c'était de s'en laisser imprégner qui était passionnant. On devinait ainsi le sens de membres de phrases auxquels on n'avait d'abord rien compris. Il aimait cette langue souple et douce qui permettait de parler si facilement sans avoir à reprendre son souffle à chaque fois qu'il s'agissait de phrases plus longues qui sont en fait peu nombreuses. Tout glisse de la bouche à la même hauteur, cela sonne comme l'anglais, poli et élaboré. La langue française, il s'en rendait compte, était aussi l'histoire de France, et l'histoire était l'essence de ce pays. L'une était l'autre. Elles étaient si étroitement entretissées qu'on ne pouvait guère les dissocier, et pourtant la langue était accessible à tous. Elle n'était pas liée au pays, pas seulement à un pays natal comme celui qu'on lui avait dénié, mais elle ne cessait de lui venir à l'esprit de façon inattendue, avec le même paysage et l'horizon infiniment ouvert vers lequel en pensée le conduisait des voyages toujours nouveaux. Arthur aimait cette langue sévère, dans laquelle il fallait toujours chercher le fil qui tenait tout ensemble et qui reliait si dignement le passé au présent. La deuxième chose que vous rendez avec précision dans ces deux textes, Georges Arthur Goldschmidt, là je viens de lire un extrait de L'après-exil.
Magnifiquement traduit.
C'est la... de Jean-Yves.
Et magnifiquement dit.
Merci. C'est la matérialité de l'expérience de la langue. C'est-à-dire qu'on sent votre corps, tout le temps. Et on sent à la fois votre corps d'enfant, et puis celui de vos frères et de votre frère, mais votre corps d'enfant, mais on sent aussi le corps de la langue.
Tout
vous,
à fait.
Vous parlez des mots... avec des membres, c'est des membres de la phrase. On sent qu'il y a quelque chose de très matériel dans votre manière de débarquer dans le français.
C'est joliment dit, oui, c'est tout à fait ça. C'est le corps participe beaucoup plus intimement à l'allemand. Il n'y a pas d'ouverture allemande. Tout est tellement précis, tellement juste, qu'il n'y a pas d'échappatoire. En français, il n'y a que des échappatoires. Et le corps peut se répandre librement. On respire beaucoup plus facilement en français qu'en allemand. L'allemand est une langue extraordinairement descriptive. Rien n'est ignoré. C'est prodigieux la manière dont l'allemand touche la réalité. Le français reste en marge. Non li m'étangere, ne me touchez pas. Ça, c'est magnifique. Et toujours une espèce d'intervalle entre le locuteur et la langue.
Et entre le mot et la chose, vous
et
racontez.
Entre le mot et la ouais. chose, en plus. Mmh. C'est pas par hasard que Foucault a pris ces deux mots. Ouais. Parce que une espèce de liberté à l'égard de la réalité qui est souveraine. C'est magnifique. En français, vous êtes jamais complètement... Vous êtes en réserve toujours quelque part. En allemand, vous plongez complètement dans la piscine. Le regard français est peut-être vient cela vient-il de la lumière de beaucoup plus méridionale qui a couvert l'ensemble de la langue que cette langue du Nord. C'est possible, c'est des hypothèses qui ont été souvent émises, mais il doit y avoir de ça, cette espèce de liberté corporelle. Du la gymnastique par exemple occupe beaucoup moins de place en France qu'en Allemagne. À Berlin, vous avez des prés entiers de gens à poil. C'est impensable en France, n'est-ce pas ? La relation au corps n'est pas du tout la même. Elle est érotique en français et gymnaste en allemand, n'est-ce pas ? La place de la gymnastique est tout à fait différente et ça, c'est très important.
Absolument. Vous racontez, ça me fait penser à un texte de Pérec, W ou le souvenir d'enfance. Vous racontez le dédoublement linguistique comme une des expériences les plus importantes de l'exil. Alors qu'il pourrait y en avoir beaucoup pour ces deux enfants, jeunes enfants, votre frère et vous, ou en tout cas les doubles littéraires qu'on trouve dans ces deux textes. Le dédoublement linguistique, vous en faites une aventure presque, Georges Arthur Goldschmidt.
Tout à fait, c'est...
Alors que... Ils vivent plein de choses, vraiment, ils vivent des grandes choses, ces enfants-là. Le dédoublement linguistique fait partie des choses les plus puissantes qu'ils semblent lire, et comme vous plongez dedans.
Le dédoublement linguistique s'est manifesté pour moi, vous faisiez allusion tout à l'heure, quand on me punissait, on me donnait à recopier des textes français dont je ne comprenais pas un mot.
Une fois que vous êtes au pensionnat.
Au pensionnat, c'est là que j'ai appris le français. Et on me faisait copier, par exemple, de La Bruyère. Et à ma grande surprise, et presque à ma stupéfaction inquiète, je comprenais des mots que je n'avais jamais vus. Et ça, c'est le grand mystère de la compréhension. D'où vient-il qu'on puisse comprendre ? Mon ami, le grand philosophe Patrice Leroux, a écrit des choses magnifiques là-dessus. Comment se fait-il qu'on puisse comprendre ce qu'on n'a jamais vu ? C'est tout à fait mystérieux. Et c'est d'une simplicité confondante.
Mais surtout que ça revient quand même à plusieurs reprises dans notre entretien depuis le début, Georges Arthur Goldschmidt, c'est-à-dire l'idée que vous êtes vous-même surpris par votre capacité d'appréhender le monde, par votre compréhension, dans un tout premier temps de votre enfance, par votre capacité de lecture sur l'épaule de votre père. C'est comme si à chaque fois, la vie vous offrait la surprise de la compréhension.
Vous dites ça très bien, c'est exactement ça. Je ne saurais mieux dire. Et c'est... pour moi, cette expérience du contact avec l'autre, là, vous commenciez par citer le fameux Hitler caca, qui était pour moi constitutif. Les Français ne savent pas le H, ils ont tout compris. C'était merveilleux.
On est en 39 et c'est
c'était
le premier
en mars 39.
Mot que vous entendez sur le quai de la gare à Chambéry.
À Chambéry, mars 39. Un porteur qui m'a sorti par la fenêtre et il me dit Hitler caca. Et j'étais, oh, un soulagement. Ça y est, je suis libre, ils ont tout compris et ils savent pas prononcer les H. Et c'était merveilleux. Hein. Et alors, on m'amène dans une, c'est une lointaine parente qui s'est occupée de nous. Je pars du printemps en hiver, Megève était couvert de neige, c'est là que c'est arrivé, et cette transition entre le paysage normal et tout à coup la neige, c'est aussi une expérience fondatrice. Et j'arrive dans ce pensionnat où, de toutes les fenêtres, on ne voyait pas l'horizon. C'était tellement haut qu'on ne voyait pas l'horizon. Ça aussi, cet horizon totalement inoccupé de l'horizon français, cette grande là. Cette immensité que fait découvrir la langue française, du coup, pour moi, ça. La langue française est pour moi liée à la découverte de cet horizon illimité.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est la manière dont vous parlez de votre soudaine mais progressive habitat dans la langue française, Georges Arthur Goldschmidt, mais aussi votre progressive compréhension de ce que ça va être l'occupation, la collaboration, la manière dont se teinte pour vous votre première langue maternelle, qu'est l'allemand, une fois que vous avez conscience des crimes nazis, conscience un peu plus finement, un peu plus violemment. C'est-à-dire que tout ça aussi chemine en vous, et on a l'impression jusqu'à aujourd'hui qu'il y a un véritable dialogue entre ces deux langues-là, évidemment, comprenant les expériences de traduction. Je voudrais qu'on écoute la voix de Edouard. Il est auditeur du Book Club. Il a lu les deux livres et il va vous adresser une question, notamment sur le livre que vous consacrez à la figure de votre frère.
Bonjour Monsieur Goldschmidt. Le roman sur votre frère, c'est celui-ci qui m'a le plus marqué. Au fil des pages, vous décrivez les différentes aventures ou les différents moments qui font évoluer et basculer votre frère. C'est extrêmement touchant. Il y a des moments très forts, notamment le fait qu'il se rende compte qu'il ne pourra pas intégrer les jeunesses hitlériennes parce que juive. Cette prise en compte est assez fou. Mais il me vient une question. Comme votre œuvre balance entre autobiographie et fiction, quelle est la part d'imaginaire qu'avez-vous donné au roman sur votre frère, Le chemin barré. Merci à vous.
Merci beaucoup, Edouard, pour cette lecture et pour cette question qu'on adresse à Georges Arthur Goldschmidt, la part de l'imaginaire dans le texte consacré à votre frère.
C'est une très, très belle question. Je vous en remercie. Elle me trouble profondément, car je ne sais pas très bien où est la limite. C'est à la fois l'un et l'autre. L'imaginaire est en même temps là où est le réel. Les deux sont si intimement distingués qu'à force, je ne sais plus si je mens ou si je dis la vérité. C'est une très belle question.
Peut-être d'autant plus, peut-être qu'on peut préciser pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous ont pas encore lu, que par exemple, dans ce texte-là, Le chemin barré, le roman du frère, déjà, dès le titre, il y a le mot roman, quand même, ça n'est pas rien.
Absolument.
Vous faites l'expérience incroyable d'être vous-même regardé, petit Georges Arthur, par la figure de votre frère. Vous êtes celui qui lui barre désormais le chemin. Et vous devenez un personnage de fiction sous le regard d'un autre personnage de fiction dont vous avez fait votre frère. Enfin, il y a quand même de toute façon, et c'est peut-être ce vers quoi nous mènent vos deux textes, l'idée que la mémoire ne fait que cela, produire de la fiction pour tenir les choses ensemble.
Exactement. Vous dites ça mieux que moi. Exactement. Et les destins de mon frère et le mien sont à ce point divergents qu'ils se rejoignent quelque part. Mon frère avait 4 ans de plus, et mes parents étaient déjà âgés quand il est né, et j'étais en effet pour lui l'obstacle fondateur, si je puis dire. Le pauvre, il était ma victime. Il a eu un destin à la fois tragique et curieux. Il s'est engagé dans la Légion, le jour est arrivé sa naturalisation. La naturalisation le matin, elle lui part à Vincennes s'engager. C'était irréversible. Et il finit rapidement par faire Saint-Cyr, comme il était très intelligent, et il s'est trouvé être compromis aux côtés du général Salan dans le complot contre le général de Gaulle, et il a fini. Il ne pouvait pas dépasser le grade de commandant. Il était enchanté, il est devenu caissier principal du Crédit Agricole de Draguignan. Et il a eu un destin.
Mais vous racontez aussi qu'à son enterrement, vous voyez débarquer toute une sorte d'élite militaire de l'armée qui vous fait quand même penser, Georges Arthur Goldschmidt, qu'il a eu, oui, une place singulière dans cette armée.
Singulière. J'arrive en train comme tout le monde et je vois une dizaine de généraux, tout un bataillon de colonels qui sont là. Moi, j'étais quand même assez impressionné. Et mon frère a dû jouer un rôle dont il m'a jamais parlé. Car nous étions des ennemis intimes et profondément aimants l'un de l'autre. On comprenait instantanément et ça diversait tout de suite. Parce que nous comprenions trop bien. Et la même chose m'est arrivée, hélas, avec mon deuxième fils. Mon premier fils est mort il y a 7 ans. Et notre second fils vient de mourir. Et avec lui, il y a une zone de conflit permanent parce que nous comprenions beaucoup trop bien. Il était metteur en scène et puis ça n'a pas marché. Un destin un peu tragique. Et je suis voué aux frères, d'une certaine manière. C'est très curieux. C'est comme si j'étais le criminel qui les tue.
Oui, d'ailleurs, je trouve que ce titre-là, du chemin barré, est une manière saisissante, et là encore, saisissante parce qu'elle se remet presque dans l'expérience physique du grand frère qui voit arriver le petit.
Exactement.
Qui ne peut plus marcher sur le chemin sans qu'il y ait un obstacle, de tas de cris, ou je ne sais plus comment vous vous décrivez vous-même, mais, et vous racontez un petit peu plus tard, je crois que c'est dans l'entretien en fin de texte, comment vous avez été étonné par votre éditeur allemand, je crois, Georges-Arthur Goldschmidt, qui vous dit, mais donc vous n'avez jamais écrit sur votre frère. Et vous êtes vous-même étonné de n'avoir jamais écrit sur votre frère. Et c'est ça qui déclenche l'écriture.
Exactement. Il me téléphone un beau jour, comme ça, sans préalable. Dites-moi, pourquoi vous ne parlez jamais de votre frère? Ça fait tilt. Oh, du coup, j'ai écrit en très peu de temps ce petit livre, qui probablement était quelque part déjà tout près en moi. Cette mauvaise conscience à l'égard de mon frère ne m'a jamais quitté. C'est très curieux. Et je lui ai cassé la vie d'une certaine manière. Et ça m'a beaucoup, beaucoup suivi toute ma vie. C'est au fond, ce malheureux, dont le destin était barré déjà par ses origines, son rêve, c'était, comme vous l'avez dit, d'adhérer aux jeunesses hitlériennes, ce qu'il ne pouvait pas faire. Ça.
Parce qu'il était d'origine juive.
D'origine juive, de famille protestante, mais d'origine juive. Et il a trimballé ça toute sa vie avec lui. C'est pas par hasard, qu'il était engagé dans la Légion étrangère, pour finir par devenir un officier assez considérable, puisqu'il est compromis dans le complot de général Saland. C'est étrange.
Oui, c'est marrant parce qu'à la fois vous parlez de toute la divergence, mais vous parlez aussi des points dans lesquels ces deux parcours de vie se rassemblent. Alors il y a évidemment ce moment que vous décrivez de deux enfants comme ça qu'on peut si bien presque voir, lancés dans un train. Ils doivent se répéter en boucle la gare de Chambéry, la gare de Chambéry, la gare de Chambéry pour ne pas l'oublier. Ils ont une carcasse de poulet comme simple bien alimentaire. Bon. Et puis il y a des expériences physiques. Vous parliez de la découverte du châtiment corporel, mais il semble que la question du corps, en tant qu'elle est exposée notamment à la punition dans ce pensionnat, est aussi un point de rencontre entre vos deux destins. Je vais lire un passage. Maintenant qu'il avait en lui un peu du passé de la France, grâce à sa courte participation à la Résistance, à ses combats dans l'armée française en Normandie et en Alsace, il était étrange pour lui de régresser jusqu'à son adolescence, de retomber dans cette période de colère, de ressentiment, minée par le chagrin de la séparation, par l'angoisse quotidienne et les images obsédantes d'arrestation et de déportation. Il monta par le raidillon jusqu'à l'internat, où on ne l'attendait absolument pas, appuya sur la poignée de la porte et descendit par l'escalier plongé dans une demi-obscurité vers la salle commune submergée de lumière. La première chose qu'il vit, ce fut son frère, au coin, exposé à tous les regards, les fesses nues toutes rouges, en train de pleurer, le fouet en main. en présence de tous les élèves et de tous les éducateurs, Mademoiselle Lucas, à ce qu'elle l'expliqua, venait de lui administrer la première moitié de sa punition qui n'était pourtant pas très sévère. La deuxième partie du châtiment interviendrait le lendemain. Jürgen Arthur, désespéré, se jeta à demi nu, tel qu'il était, dans les bras de son grand frère mourant de honte. Erich, étouffé presque d'embarras, ce qu'il pensait avoir surmonté une fois pour toutes, fondait de nouveau sur lui la niaiserie puérile. Son frère cadet, lui dit-on, semblait littéralement désirer le fouet, car après chaque punition, il était attentif, joyeux comme libéré, et pourtant la correction lui était toujours administrée sous les yeux de tous. Vous disiez tout à l'heure, Georges Arthur Goldschmidt, votre sidération à la découverte des confessions de Jean-Jacques Rousseau. Comment pouvait-on avoir laissé publier cela ? Tant ça vous paraissait incroyable qu'on puisse lire de choses si intimes. Mais cette page-là, par exemple, cette page-là qui fait se réunir plusieurs hontes empilées de votre frère qu'on a un peu énumérées. Et puis, la honte érotique, presque désirée, de la punition corporelle vécue par le petit Georges Arthur est aussi une manière de sonder les profondeurs les plus complexes de l'âme adolescente quand même. C'est-à-dire que vous ne faites de cadeaux, si on peut dire, à personne. Vous allez dans le plus nuancé.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le rôle du châtiment corporel, à cette époque, c'était absolument général.
Bien sûr.
Dans les épiceries, les martinets pendaient au plafond, il n'y a pas encore si longtemps. Et dans les pensionnats, c'était la règle absolue. C'était la normalité. Et je découvre, paradoxalement, à ce moment-là, une puberté tardive, les confessions, le livre 3. Moi, j'ai cru en perdre la raison. Comment peut-on lire sa propre aventure à ce point-là ? Ça a été fondateur de la littérature. C'est comme ça que, pour moi, s'est fondée la littérature. L'expérience la plus intime, écrite par autrui. Mmh. C'est formidable. J'ai eu une chance inespérée, d'une certaine manière, à tous égards. Cette expérience est... Aujourd'hui, plus personne ne comprend ce que ça... S'il y a Bessaram, là, aujourd'hui, dans les...
Oui, bien sûr.
On en reparle, mais de mon temps, c'était absolument naturel. C'était dans les pensionnats.
Là, vous parlez pas de sévices sexuels. Bétharam,
pas du tout.
Ce sont quand même des sévices sexuels. C'est encore autre chose.
C'est autre chose. Mais là,
il y a des châtiments physiques, mais
le châtiment physique était tout à fait normal. Mais il se trouve que pour certains enfants, c'est un châtiment déterminant. Comme un certain Jean-Jacques Rousseau, et moi, si j'ose la comparaison, mais sur le plan chronologique, ça coïncidait exactement.
D'autant que vous racontez très bien, et dans une précision, la manière dont ça fait intervenir la nudité, l'exposition. Et il me semble, malheureusement, le temps passe trop vite pour qu'on entre dans la grande nuance de ce que vous développez là, mais... C'est tout un lien aussi avec la honte, c'est-à-dire que la première honte de se réaliser juif en Allemagne alors qu'on se croit que allemand, entre guillemets, juif est d'un seul coup détesté, juif est d'un seul coup haï, juif est d'un seul coup honteux, elle vient s'empiler à une autre honte d'un seul coup dans un autre pays, mais elle liée à un érotisme du corps nu. Enfin bref, voilà, bon, je sais pas, c'est trop compliqué, mais je veux dire, c'est rendu d'une manière fine et complexe dans ce texte-là, et je voulais que on puisse aussi dire à quel point votre mémoire sonde aussi ces
Vous savez qu'en allemand, la honte et la pudeur, c'est le même mot.
Ah non ?
Die Scham.
C'est vrai ?
Oui.
Alors, vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus à quel endroit, je crois peut-être dans l'entretien final, vous racontez combien le mot « entrée » en français trouve une déclinaison, je ne sais pas, peut-être de 5 ou 10 mots différents en allemand. Là, ce serait l'inverse. « Honte et pudeur », c'est pareil.
C'est pas.
Ben voilà.
Oui.
Le book club continue.
France Culture, le book club, Marie Richeux.
Et nous parlons économie à cette heure-ci dans le Book Club avec vous, Nicole Vulser. Bonjour Nicole.
Bonjour Marie.
Aujourd'hui, vous évoquez un secteur tout particulier de l'édition, puisque c'est l'auto-édition qui est en plein essor, mais souvent quand même un leurre pour les auteurs et les autrices.
Absolument. N'importe qui peut s'improviser écrivain. Depuis une dizaine d'années, l'auto-édition a pris un essor réel et modifié en profondeur le secteur de l'édition. Ne nous y trompons pas, seule une poignée d'auteurs et surtout d'autrices, auto-publiés puis repérés par des éditeurs classiques, réalisent d'exceptionnels succès de vente, comme Agnès Martin-Lugan, Aurélie Valogne, Virginie Grimaldi ou Frida McFadden. Un peu comme les gagnantes du loto. La dernière étude publiée en mars 2024 par le ministère de la Culture, intitulée « L'auto-édition de livres francophones imprimés, un continent ignoré a de quoi doucher bien des ardeurs ». Les auteurs auto-édités ne vendent en moyenne que 22 exemplaires en livres imprimés, donc à leur famille et leurs amis proches, là où un ouvrage édité chez un éditeur classique atteint 1458 exemplaires. Qu'est-ce qui les pousse donc à recourir au service des nombreuses plateformes d'auto-édition ? Que ce soit la plus importante, celle d'Amazon, Kindle Direct Publishing, ou pour nommer les autres les plus connus, celle d'Apple ou encore Kobo Writing Life, mais aussi Bookelist, Koolibri, Books on Demand et LibriNova. Charlotte Alibert, la directrice de LibriNova, m'a assuré que tous les auteurs n'ont pas le même objectif. Certains veulent vendre beaucoup, d'autres espèrent être repérés par un éditeur classique, mais on trouve aussi tous ceux qui, sans aucune prétention littéraire, veulent publier un récit familial ou un recueil de poésie.
Oui. Vous parlez de 22 exemplaires en livres imprimés vendus. Est-ce qu'on a une idée, Nicole, de ce que ça représente comme marché ?
Il existe bien peu d'études à ce sujet, essentiellement parce que l'auto-édition a longtemps été regardée comme la plus absolue condescendance, comme étant le club des refusés des maisons d'édition traditionnelles. Et aucune estimation réelle du chiffre d'affaires de ce secteur ne peut être donnée, puisque le numéro 1, Amazon, se refuse à communiquer le moindre chiffre. La seule source provient donc du dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, où l'on a recensé l'an dernier 21 300 ouvrages auto-édités sur les 85 200 livres déposés, soit un ratio important de 25% contre 12% seulement en 2012. L'auto-édition a connu une embellie fulgurante pendant la pandémie, période pendant laquelle des milliers de gens ont occupé leur temps libre en écrivant un manuscrit qu'ils ont ensuite voulu partager. Aujourd'hui, l'offre sur les plateformes se concentre sur plusieurs genres littéraires très précis. Le fantasy, la fantastique, la science-fiction, la romance, les thrillers et enfin la fiction.
Alors, puisqu'on vous demande chaque mardi de nous parler d'économie, de sous, d'argent, comment s'effectue le partage de la valeur entre ces plateformes et les auteurs et autrices ?
D'abord, Marie, l'auto-édition est une prestation de service et non pas un contrat avec un éditeur. Le partage de la valeur semble a priori intéressant, puisque les plateformes reversent aux auteurs jusqu'à 70% du prix des e-books vendus, en sachant que c'est l'auteur lui-même qui en fixe le prix. Pour les livres imprimés, Amazon assure reverser jusqu'à 60% des recettes, mais l'auteur paie l'impression en général, plus de 4 euros par exemplaire, parfois bien plus. Chez les éditeurs classiques, l'auteur touche en moyenne 10% du prix de vente de chaque livre vendu, une fois remboursé son avaloir, c'est-à-dire l'argent qu'il a touché en avance pour écrire son ouvrage. Certains écrivains connus jugent qu'il est plus rentable pour eux de s'auto-éditer, comme Joël Dicker, qui n'avait plus envie de travailler avec quiconque après le décès de son éditeur Bernard de Fallois, ou encore l'auteur de BD Riyad Satouf. D'autres gardent un système hybride en jouant sur les deux tableaux.
Et alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontés ces auteurs qui choisissent de s'auto-éditer ?
Chez Bookelist, Émilie Le Coguiec, la directrice marketing, est très claire. Les deux problèmes majeurs tiennent à la visibilité des ouvrages et à leur promotion. Les ventes en ligne ne décollent qu'à condition d'avoir des centaines de commentaires élogieux et aucun éditeur ne vend un livre auto-édité. Aucun libraire, pardon Marie, ne vend un livre auto-édité. Ils sont tous déjà submergés par l'offre pléthorique des éditeurs traditionnels. Donc, toutes les plateformes proposent désormais une gamme de services extrêmement étoffée pour aider les auteurs à se professionnaliser. Cela passe par la correction du manuscrit, mais aussi la mise en page, l'illustration de la couverture, le recours à un coach littéraire, la promotion de l'ouvrage, la mise en place d'une campagne de promotion auprès des influenceurs. Bref, des kits qui peuvent coûter plus de 2500 euros, alors que les recettes atteignent rarement le dixième d'un tel investissement.
Et l'image de l'auto-édition, est-ce qu'elle risque de se dégrader encore avec cette fameuse arrivée massive de l'intelligence artificielle dont on a déjà parlé ici ?
Effectivement, Marie, c'est l'une des questions les plus abrasives aujourd'hui. Jusqu'à présent, Amazon a interdit la publication de plus de 3 livres auto-édités par le même auteur sur sa plateforme en 24 heures. Il n'est donc pas interdit d'utiliser l'IA. Encore faut-il le signaler et expliquer où et comment cette IA générative est intervenue dans la fabrication du manuscrit. Le seul rempart imposé par Amazon est, je cite, « de ne pas créer une expérience décevante pour le lecteur ». Une avalanche de textes d'un intérêt limité risque donc bien de noyer totalement l'offre proposée.
Je renvoie nos auditeurs et auditrices à la chronique que vous aviez justement consacrée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'édition. Merci beaucoup. Économie de la culture, c'est à réécouter sur franceculture.fr. À la semaine prochaine, Nicole. Je vous en prie, vous pouvez poser une question à Nicole Vulsar, mais on attend encore 4 minutes parce que l'émission est terminée dans 4 minutes. Figurez-vous qu'à cette heure-ci, George Arthur Goldschmidt, on joue à un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et on cherche de la musique dans les textes. Et dans vos deux textes publiés aux éditions Verdier, on a trouvé une seule occurrence de la musique. C'est un chant italien, c'est une tarentelle italienne et on l'a repéré dans votre livre Le Chemin Barré. On se quitte donc avec un extrait. Erich ne se donna pas la peine d'apprendre l'italien. Peut-être parce qu'il était conscient de n'avoir à séjourner en Italie que provisoirement. Hitler et Mussolini étaient amis. Et le couple qui les avait recueillis leur montrait par le vague de leur réponse au sujet de cette alliance qu'il valait peut-être mieux ne pas trop prendre racine dans la région. Il ne fallait pas trop lier son souffle de vie à la vue des collines harmonieuses et des maisons de couleur ocre sur les cyprès ou les platanes. Les bruits non plus n'étaient pas à eux, et quand la cuisinière chantait la cicerenella et qu'il chantait avec elle, c'était comme s'il portait des protège-oreilles. Il ne pouvait jamais se laisser aller. Il aurait fallu pour cela qu'il rencontre d'autres garçons italiens. Sans qu'il pût en avoir véritablement l'idée, car il n'aurait pas trouvé les mots pour le dire, Erich se sentait pris dans une membrane invisible. C'était comme s'il dansait sur une seule jambe, il avait 15 ans et était déjà damné. Cicerenella tenera una gatta che era cercata pur si scontrafatta la ciaccia neva come da quando la chitta la gatta di Cicerenella Cicerenella tenera una galla tutta la notte in cene a cavar e son cene a poi senta la stella tutta la gamba di Cicerenella Cicerenella si buona e bella Cicerenella tenera una ciuccia che l'aveva fatto una bella Ma non teneva né ossa né pella Chi te lo giugge di cicerenella Cicerenella teneva gallina Che facciamo lavare sera mattina Lamparata Maria Farnella Che te cammina in cicerenella C'était bien qu'il y ait un petit peu d'italien quand même pour terminer cette émission où on a beaucoup parlé de français et d'allemand. Merci beaucoup George Arthur Goldschmidt. On a parlé de votre livre Le Chemin Barré, roman du frère, traduit depuis l'allemand vers le français par Jean-Yves Masson. Non, ça c'est traduit par vous. Et L'Après-Exil qui est traduit par Jean-Yves Masson. Tout ça aux éditions Verdier. Au son aujourd'hui, c'était Noé Chaban à la réalisation Margot Page. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et particulièrement à Auriel Mignot.